5. Les batailles des guets de l'Isène. Théodred et Éomer représentaient pour Saruman les principaux obstacles à une conquête facile du Rohan. C'étaient des hommes vigoureux, tout dévoués au roi, et fort avant dans ses affections, étant respectivement son fils unique et le fils de sa sœur. Et ils firent tout ce qu'ils purent pour contrer l'influence que gagna Grima lorsque la santé du roi se mit à décliner, ce qui survint au début de l'année 3014. Théoden avait alors 66 ans. Son mal aurait pu être imputé à des causes naturelles, bien que les Rohirrim vécussent normalement jusqu'à 80 ans et au-delà. Mais il aurait pu aussi avoir été induit ou aggravé par de subtils poisons administrés par Grima. Toujours est-il que la faiblesse du roi et sa dépendance à l'égard de Grima provenaient pour une large part des suggestions habiles et captieuses que lui instillait ce perfide conseiller. Sa politique prioritaire était de discréditer ses principaux adversaires aux yeux de Théoden et, si possible, de s'en débarrasser. Les dresser l'un contre l'autre devait se révéler impossible. Avant sa maladie, Théoden était bien aimé de sa famille et de son peuple, et Théodred et Éomer se montrèrent envers lui d'une loyauté sans faille, même lorsque l'esprit du roi sembla pris de sénilité. Au surplus, Éomer n'était pas un homme ambitieux, et son amour et son respect pour Théodred, de 13 ans son aîné, ne le cédaient qu'à son amour pour son père adoptif. C'est pourquoi Grima s'efforça de les placer en rivalité dans l'esprit de Théoden, peignant Éomer sous les traits d'un homme toujours avide d'accroître sa propre autorité et prêt à agir sans consulter le roi ou son héritier. En cela, il eut un certain succès qui porta fruit lorsque Saruman réussit enfin à faire périr Théodred. Lorsque parvint au Rohan le récit véridique des batailles de l'Isène, on ne douta point que Saruman ait donné l'ordre de s'acharner sur Théodred, dont il voulait la mort à tout prix. Durant le premier engagement, les plus féroces guerriers de Saruman s'étaient jetés dans le plus terrible des assauts contre Théodred et sa garde personnelle, négligeant tout autre point de la bataille qui, sans cela, aurait amené à une défaite beaucoup plus grave pour les Rohirrim. Lorsque Théodred fut finalement tué, le commandant en chef, qui obéissait très certainement aux ordres de Saruman, parut momentanément satisfait, et Saruman commit l'erreur, qui devait se révéler fatale, de ne pas immédiatement envoyer des troupes supplémentaires et procéder sans tarder à l'invasion massive du Westfold, encore que la vaillance de Grimbold et d'Elfhelm eût contribué sans aucun doute à son retard. Car si l'invasion du Westfold avait commencé 5 jours plus tôt, il est évident que les renforts en provenance des Doras ne seraient jamais parvenus jusqu'à la gorge de Helm, mais qu'ils auraient été cernés et vaincus en rase campagne. Et Edoras même risquait d'être attaquée et prise avant l'arrivée de Gandalf. On a dit que la valeur de Grimbold et d'Elfhelm contribua à retarder Saruman, retard qui lui fut désastreux et dont l'importance est peut-être sous-estimée dans la relation ci-dessus. L'Isène coulait torrentueux depuis sa source en amont d'Isengard, mais arrivé à la brèche, il s'alanguissait et obliquait vers l'ouest. Il poursuivait ensuite sa course à travers une contrée en pente douce jusqu'aux basses terres qui formaient le versant maritime aux extrémités du Gondor et de l'Enedweth. Et là, il se faisait profond et impétueux. Les guets de l'Isène se trouvaient juste en amont de la boucle qu'il décrivait vers l'ouest. En cet endroit, le fleuve était large et peu profond, coulant de part et d'autre d'un vaste îlot, déferlant sur un banc couvert de galets et de caillasses charriées du nord. C'était le seul point au sud d'Isengard où des forces importantes, et surtout si elles étaient lourdement armées ou à cheval, pouvaient franchir la rivière. Saruman avait donc un avantage. Il pouvait envoyer ses troupes simultanément sur les deux rives de l'Isène et attaquer les guets si son ennemi les défendait des deux côtés à la fois. Et ses soldats postés à l'est de l'Isène pouvaient, si nécessaire, se replier sur Isengard. Quant à Théodred, il avait le choix entre franchir les guets avec une force suffisante pour livrer bataille à Saruman, ou bien défendre la tête de pont à l'ouest. Mais si ses hommes étaient vaincus, il n'avait d'autre voie de retraite que celle des guets avec l'ennemi à leur trousse, quitte en plus à le retrouver sur l'autre berge. Ils ne pouvaient regagner leur foyer en prenant au sud et à l'ouest de l'Isène, à moins d'avoir provisions suffisantes pour la longue traversée du Gondor de l'Ouest. L'attaque de Saruman n'était pas inattendue, mais elle vint plus tôt que prévu. Les éclaireurs de Théodred avaient averti ce dernier d'une concentration de troupes aux portes d'Isengard, principalement, semblait-il, à l'ouest de l'Isen. Théodred posta donc des hommes résolus, issus des troupes du Westfold, aux abords des gués, tant à l'est qu'à l'ouest. Et laissant trois régiments de cavaliers avec des troupeaux de chevaux et des montures de rechange sur la rive est, il franchit lui-même les gués avec le gros de sa cavalerie. Huit régiments et une compagnie d'archers, bien décidés à anéantir l'armée de Saruman avant que celle-ci soit fin prête à attaquer. Mais Saruman n'avait rien laissé entrevoir de ses desseins, ni de la force réelle de son armée. Elle était déjà en marche lorsque Théodred fit mouvement. À environ 20 000 au nord des Gués, l'armée de Théodred se heurta à l'avant-garde de Saruman et la dispersa avec de lourdes pertes. Mais lorsqu'il poursuivit sa chevauchée pour s'attaquer au gros de l'armée ennemie, la résistance se durcit. En fait, les forces de Saruman étaient déjà en position et prêtes à en découdre derrière des tranchées défendues par des hommes armés de piques, et Théodred, à la tête de la première Éored, fut intercepté et pratiquement encerclé par des forces fraîches sorties d'Isengard qui l'attaquèrent sur son flanc ouest. Il fut dégagé par une charge de ses cavaliers accourant derrière lui, mais quand il porta son regard vers l'est, le désarroi le saisit. Le matin avait été sombre et brumeux, mais voici qu'une brise d'ouest chassait les nuées à travers la brèche, et loin à l'est de la rivière, il distinguait des nouvelles formations qui se ruaient vers les gués, sans qu'il pût en déterminer l'importance. Il ordonna immédiatement de faire retraite, ce que les cavaliers, bien rompus à la manœuvre, exécutèrent en bon ordre et sans trop aggraver leurs pertes. Mais ils ne semèrent pas l'ennemi, ni même le distancèrent pour longtemps, car la retraite fut plusieurs fois interrompue lorsque l'arrière-garde sous les ordres de Grimbold aux abois dut tourner bride afin de refouler les plus acharnés de leurs poursuivants. Lorsque Théodred atteignit les gués, le jour baissait. Il donna à Grimbold le commandement de la ligne de défense sur la berge ouest et la renforça avec 50 cavaliers mis à pied. Au reste des cavaliers, avec tous les chevaux, il fit passer l'eau en hâte, ne gardant que sa propre compagnie, à qui il fit mettre pied à terre, puis il se posta sur l'îlot pour couvrir la retraite de Grimbold au cas où il se verrait repoussé. À peine avait-il pris position que le désastre frappa. Le contingent oriental de Saruman se rua sur eux avec une rapidité imprévue, beaucoup moins considérable que le contingent occidental, mais bien plus redoutable. À l'avant-garde, chargeaient les cavaliers dunlandais et une puissante horde de redoutables orques chevaucheurs de loups qui jetaient la panique parmi les chevaux. Derrière, venaient deux bataillons de féroces Uruks, lourdement armés, mais entraînés à parcourir de longues distances à vive allure. Les chevaucheurs de loups fondirent sur les chevaux et les attaquèrent au piquet, et ils les massacrèrent et les dispersèrent. Telle fut la soudaineté de l'assaut des Uruks que la garnison de la rive est fut balayée et les cavaliers qui venaient de traverser depuis la berge ouest furent rattrapés, toujours en plein désarroi. Et bien que les hommes luttassent avec l'énergie du désespoir, ils furent chassés des gués et le long de l'Isen avec les Uruks à leurs trousses. Dès que l'ennemi fut maître de la pointe orientale des gués, survint une compagnie d'hommes cruels ou hommes orques, manifestement envoyés à cette intention, revêtus de cottes de mailles et armés de haches. Se ruant sur l'îlot, ils l'assaillirent des deux côtés à la fois. Et simultanément, les forces de Saruman, postées à l'ouest, chargèrent Grimbold sur cette même rive. Et comme il tournait ses regards vers l'est, alerté par le fracas de la mêlée et les cris hideux des orques hurlant victoire, il vit les hommes aux haches repoussant des berges les soldats de Théodred vers le petit monticule au centre de l'îlot. Et il entendit la puissante voix de Théodred criant « À moi, Eorlingas !» À l'instant, Grimbold, entraînant les quelques hommes qui l'entouraient, courut vers l'îlot. Son assaut sur l'arrière-garde des attaquants fut d'une telle férocité, et lui-même étant d'une force terrible et de puissante stature, qu'il se fendit un chemin parmi ses ennemis, et toujours accompagné de deux hommes, il parvint jusqu'à Théodred, acculé sur le monticule. Trop tard. Comme il arrivait, Théodred s'effondra, abattu par un gigantesque homme orc. Grimbolt tua l'assaillant et se tint debout au-dessus du corps de Théodred, le croyant mort. Et sans doute aurait-il connu même sort si Elfhelm n'était survenu. Elfhelm avait chevauché à bride abattue sur la route des cavaliers depuis Edoras à la tête de 4 compagnies en réponse à l'appel de Théodred. Il s'attendait au combat, mais pensait avoir encore quelques jours devant lui. Toutefois, lorsqu'il approcha du croisement entre la route des cavaliers et le chemin qui descendait de la gorge, ses éclaireurs du flanc droit lui signalèrent que l'on avait aperçu, courant la campagne, 2 orques chevaucheurs de loups. Pressentant un malheur, il ne se retira pas vers la gorge de Helm pour la nuit, comme il avait prévu, mais galopa à toute allure vers les guets. La route des cavaliers se détournait vers le nord-ouest, peu après son croisement avec celle de la gorge, puis obliquait de nouveau brusquement vers l'ouest à la hauteur des guets, dont elle se rapprochait en droite ligne sur près de 2000. Elfhelm ne vit donc rien, et n'entendit rien de la bataille qui faisait rage au sud des guets, entre les troupes faisant retraite et les Uruks. Le soleil avait sombré à l'horizon, et la lumière faiblissait lorsqu'il approcha du dernier virage de la route. Et là, rencontra des chevaux qui galopaient en liberté et quelques fugitifs qui le mirent au courant du désastre. Bien que tous, hommes et chevaux, fussent fourbus, il piqua des deux sur la ligne droite et, parvenu en vue de la rive est, il donna l'ordre à ses troupes de charger. Ce fut aux Isengardiens d'être surpris. Ils entendirent le tonnerre des sabots, puis ils virent accourir une immense armée, à ce qu'il leur sembla, ombre noire sur le couchant enténébré, avec Elfhelm à sa tête. Et flottait à son côté un étendard blanc, tel un signe pour ceux qui lui faisaient escorte. Peu tinrent ferme, la plupart prirent la fuite vers le nord, poursuivis par 2 des compagnies d'Elfhelm. Aux 2 autres, Elfhelm fit mettre pied à terre pour garder la rive orientale. Et avec les hommes de sa propre compagnie, il se rua aussitôt vers l'îlot. Les hommes aux haches furent alors pris entre les survivants de ceux qui s'étaient défendus et la charge d'Elfhelm. Et les 2 rives étaient encore tenues par les Rohirrim. Ils se battirent furieusement, mais ils furent tués jusqu'au dernier. Elfhelm, quant à lui, avait gravi d'un bond le tertre, et là, il trouva Grimbold disputant à 2 gigantesques hommes munis de haches la dépouille de Théodred. Il abattit immédiatement l'un d'eux, et l'autre s'effondra sous les coups de Grimbold. Ils se baissèrent alors pour soulever le corps, et s'aperçurent que Théodred respirait encore. Mais il ne vécut que pour prononcer ses ultimes paroles. « Laissez-moi reposer ici, pour garder les guets jusqu'à la venue des Homères. » La nuit tomba. Un corps discordant retentit et se referma le silence. L'attaque sur la rive occidentale cessa, et les ennemis qui s'y trouvaient s'évanouirent dans les ténèbres. Les Rohirrim étaient maîtres des guets, mais ils avaient subi de lourdes pertes, surtout en chevaux. Le fils du roi était mort, et ils n'avaient plus de chef, et ignoraient ce que l'avenir leur réservait encore. Lorsqu'après une nuit froide et insomnieuse, une grise clarté se leva, il n'y avait plus trace des Isengardiens, hormis ceux, en grand nombre, qu'ils avaient laissés morts sur le champ de bataille. Au loin hurlaient les loups, impatients que les vivants s'en aillent. De nombreux hommes, dispersés par l'assaut soudain des forces d'Isengard, commencèrent à revenir, certains encore à cheval, d'autres tenant par la bride des chevaux qu'ils avaient rattrapés. Plus tard dans la matinée, la plupart des cavaliers de Théodred, qui avaient été chassés en aval par un bataillon de noirs Uruks, s'en revenaient, exténués, mais en bon ordre. Et ils avaient une même histoire à raconter. Ils s'étaient arrêtés sur une petite éminence et s'apprêtaient à faire front. Ils avaient repoussé une partie de la force d'attaque d'Isengard, mais sans moyen d'approvisionnement, il n'y avait pas à envisager une retraite vers le sud. Les Uruks avaient résisté à toute tentative de percer à l'est et les avaient chassés vers le pays désormais hostile de la marche occidentale dunlandaise. Malgré la nuit close, les cavaliers s'étaient préparés à repousser l'assaut lorsqu'un cor sonna. Et bientôt ils découvrirent que l'ennemi avait disparu. Il leur restait trop peu de chevaux pour donner la chasse ou même pousser une reconnaissance, dans la mesure où cela aurait été utile en pleine nuit. Après un temps, ils s'étaient remis précautionneusement en marche vers le nord, mais ils ne rencontrèrent aucune opposition. Ils pensaient que les Ourouks étaient retournés renforcer leur position sur les guets, et ils s'attendaient à les retrouver en pleine bataille, et s'étonnèrent fort de découvrir que les Rohirrim étaient maîtres des lieux. Ce ne fut que beaucoup plus tard qu'ils devaient apprendre où les Ourouks étaient allés.